Bonsoir. Rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale, classé 184e sur 189 pays. Les RDC figurent parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires. Ceci à travers notamment la mise en place du guichet unique qui a facilité la création d'entreprises. Cependant, Doing Business indique entre autres que l'obtention du permis de construire est devenue plus difficile suite à l'augmentation des prêts. Quelle analyse faire de ce rapport? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 5 novembre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Janvier Kiambu. Il est expert en réforme au comité des pilotages pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Monsieur Kiambu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Victor Zouzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Monsieur Zouzi, bonsoir.
Bonsoir.
Et Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Il est aussi analyste économique et politique. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Komanda Mutayo depuis Kindu au Maniema. Sans minimiser les efforts conjugués par le gouvernement congolais dans l'amélioration du climat des affaires, il n'y a pas à s'en féliciter car beaucoup reste à faire. Octave Zainda Bukavu Sud Kivu estime que le guichet unique est un échec dans son application en RDC parce qu'on ne connaît pas son impact sur le budget, l'économie et la vie des citoyens. Merci de nous suivre à Matadi dans la province du Bas-Congo sur la 102.fm. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Banque mondiale a publié mercredi 29 octobre son rapport Doing Business 2015 qui classe 189 pays du monde suivant la facilité d'y faire les affaires. Si la RDC maintient son rang dès l'année dernière, l'institution des Bretton Woods note que le pays figure parmi les 10 économies sur les 189 couvertes par Doing Business qui ont le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année. François Kadima revient sur les grandes lignes de ce rapport.
Disons que les 10 pays sont classés meilleurs pour avoir entrepris des réformes dans les différents domaines pour la stabilité de leurs économies. Pour la RDC, le rapport souligne que le pays a, à travers la création du guichet unique, rendu plus facile la création d'entreprises. Il a aussi amélioré l'accès à l'information sur les crédits en établissant les registres de crédit. Doing Business note également le renforcement de la loi sur la protection des investisseurs minoritaires et la facilité dans le processus de paiement des impôts pour les entreprises avec la simplification des déclarations d'impôts sur les revenus des sociétés. L'une des réformes signalées aussi, c'est le raccordement à l'électricité qui, selon ce rapport, est devenu plus accessible avec la réduction des nombres d'autorisations pour les nouvelles connexions. Mais Doing Business note malheureusement que l'obtention des permis de construire est devenue plus difficile suite à l'augmentation des frais. Signalons que sur les 10 réformes mesurées par Doing Business pour l'amélioration du climat des affaires, la RDC et la Côte d'Ivoire ont entrepris chacune des réformes dans 5 domaines par rapport au Sénégal qui est à 6 parmi les pays africains.
Merci François Kadima, Janvier Kiambu. Je rappelle que vous êtes expert en réforme au comité des pilotages pour l'amélioration du climat, des affaires et des investissements. Quelle lecture ou quelle analyse vous faites de ce rapport de Doing Business 2015?
Merci madame. D'abord pour répondre à l'ami de Kindu qui dit qu'il n'y a pas lieu de s'en féliciter. Le gouvernement, je pense, comme les experts du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires, ne se satisfont pas de ce classement dans la mesure où on est encore en bas du classement. Cependant, on peut noter qu'il y a lieu d'être encouragé. Il y a une véritable note d'encouragement parce que c'est la première fois, la toute première fois, que la RDC est dans le top des 10 meilleurs réformateurs en nombre de réformes menées est mise en œuvre suivant les critères du Doing Business. On est 10 dans le monde et 5 en Afrique. C'est un motif de, je ne dirais peut-être pas satisfaction, mais c'est un encouragement pour nous parce qu'il faut, il faut garder l'élan et continuer à aller de l'avant. Alors, il faut comprendre que sur le permis de construire, le journaliste qui est passé avant a donné les réformes sur lesquelles on a fait des progrès. Les
la création d'entreprises,
on...
le raccordement de l'électricité.
Tout à fait, c'est exact. Mais on ne doit pas penser, comme il a dit, qu'il y a eu une augmentation des frais sur le permis de construire. Ce qu'il y a eu, c'est que le doing business, et c'est pour cette raison qu'il y a ce paradoxe, avoir fait des réformes, être dans les 10 premiers, et en même temps ne pas changer de position. C'est que le service doing business ont changé de méthodologie d'évaluation. Ça bouleversait un nombre important de pays dans le classement. Je vous donne un exemple. Il y a des pays qui ont fait des réformes, mais qui ont perdu de poids. Il y a des pays reconnus comme étant, surtout en Afrique, comme étant des grands réformateurs, mais qui ont perdu de poids. Tout comme il y a des pays qui n'ont pas fait de réformes, mais curieusement, qui ont gagné des places.
Et la RDC a fait des réformes, mais a gardé la même place.
C'est du fait du changement de la méthodologie. Il y a des changements majeurs qui ont été apportés sur le champ d'évaluation des réformes, notamment sur les indicateurs comme l'accès au crédit. Je vous dis que l'accès au crédit, c'est un des indicateurs sur lesquels la RDC a fait des réformes, mais en réalité, on a perdu de points parce qu'on n'a pas couvert tous les domaines sur lesquels s'élargit maintenant le champ d'évaluation. Il y a aussi le règlement de l'insolvabilité qui s'est étendu à un champ plus vaste d'évaluation, comme la protection des investisseurs qui devient, qu'on appelle maintenant, la protection des actionnaires minoritaires. Pour revenir sur le permis d'exploitation, sur le permis de construire, je voulais dire qu'il n'y a pas eu en réalité augmentation des frais, mais la méthode actuelle d'évaluation
est devenue difficile. L'obtention du permis de construire est devenue plus difficile qu'avant, selon ce rapport.
Non, c'est pas ça la réalité. La vérité, c'est que on n'a pas rendu plus difficile l'obtention du permis d'exploitation, mais la méthode d'évaluation fait que on tient compte du revenu du PIB par habitant, voilà, pour calculer et le coût de construction et les coûts des frais d'obtention du permis de construire. Vous le savez, le PIB de la RDC est relativement bas, ce qui fait qu'en fait, on a perdu ce point, on a perdu de points sur cet indicateur à l'avantage de pays qui ont un PIB plus élevé. C'est ça la vérité.
Mais on reste au bas quand même de l'échelle.
On reste
malgré
en bas.
Nos améliorations.
Oui, on reste en bas de l'échelle. Je le répète, il y a eu des changements majeurs sur 3 indicateurs. Je l'ai dit. L'indicateur accès au crédit, l'indicateur règlement de l'insolvabilité et l'indicateur protection des investisseurs qui devient maintenant protection des actionnaires minoritaires. Comme il y a eu aussi des modifications mineures sur un certain nombre d'indicateurs, c'est le cas du permis de construire. Sur le permis de construire, je disais, avant, on calculait le coût était donné par les personnes ressources du doing business qui estimaient le coût des frais. À ce jour, dans le rapport doing business de 2015, le coût est calculé, je le dis, en fonction du PIB. Et on arrête. En plus, on a ajouté un champ d'évaluation qui ne s'y trouvait pas. Le coût de construction d'une maison, le coût de construction dans le cas ici, on prend un entrepôt de type commercial, devrait s'élever à 50 fois le PIB par habitant du pays. Et je disais qu'avec le PIB de notre pays, cet indicateur, ce sous-indicateur-là, nous défavorise.
Alors, par rapport à la création d'entreprises, Monsieur Janvier Kiambou, combien d'entreprises ont été créées depuis que la RDC a lancé la réforme pour l'amélioration du climat des affaires?
Je dois vous dire que je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à près de 7 000, on est entre 6 et 7 000 entreprises créées. C'est depuis la mise sur pied du guichet unique de création d'entreprises.
Alors, la RDC est félicitée et comptée parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires. Qu'est-ce qui explique cette performance?
C'est d'abord les meilleurs réformateurs sont choisis parmi les pays qui ont fait au minimum 3 réformes sur une période donnée. La période prise en compte ici, c'est 2013 et 2014. La RDC en a fait 5. 5 qui ont été mises en œuvre suivant les critères du Doing Business. C'est ça.
Merci, Monsieur Janvier Kiambou. Victor Nzouzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Quelle est votre analyse par rapport à ce rapport de Doing Business qui classe la RDC 184e pays sur 189, mais la RDC figure parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires?
Oh ben, je pense que c'est une bonne chose, comme il a dit. Mais en réalité, nous avons gardé notre place, donc au bas de l'échelle, comme vous le dites, comme ils l'ont classé. Et donc, cela veut dire que nous avons encore de très, très sérieux problèmes. Mais en fait, pour moi, la Banque mondiale, qui est l'auteur, qui est à la base de tous ces classements, la Banque mondiale, c'est une banque, hein. C'est une banque détenue par les grandes puissances. Lorsqu'on parle du climat des affaires, qu'il faut aménager, c'est en faveur plus des investisseurs. Mais quel investisseur? Est-ce que c'est plus les investisseurs congolais ou bien les investisseurs étrangers? Est-ce que les investisseurs congolais réellement bénéficient de toutes ces réformes? Sinon, il faut le dire que lorsqu'on parle de la Banque mondiale qui classe, et la Banque mondiale tient plus compte de ces investisseurs qui viennent de l'extérieur, qui sont dans leur cercle, le cercle des plus forts, qui sont dans les différents secteurs miniers, le secteur des communications, demain de l'énergie, de l'eau, consorts. Donc, pour moi, ça ne change rien. Parce que j'ai dit, de tout cela, qu'est-ce que ça va nous apporter? Quand j'ai lu l'article 58 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Et le deuxième alinéa, l'État a le devoir de le redistribuer équitablement et garantir le droit au développement. Le droit au développement, ce n'est pas la Banque mondiale qui doit venir vous faire des leçons. Le droit au développement, c'est lorsque le pays s'est dit, ben, écoute, le climat des affaires, moi, j'améliore ce climat des affaires. Alors, ce climat des affaires, la pression qu'on fait sur le Congo, ce n'est pas la même pression qu'on fait aux États-Unis, ou bien ce n'est pas la même pression qu'on fait à la France. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes sous la coupe des institutions financières internationales. Et tout cela, ce n'est pas en faveur du petit Congolais, c'est pas en faveur du paysan, c'est pas en faveur de l'enseignant. Parce que nous savons, toutes ces entreprises créées, à la fin, qu'est-ce que ça apporte dans le trésor? Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Mais le climat des affaires, c'est un bon climat des affaires pour ces investisseurs, pour la Banque mondiale, pour ceux-là qui détiennent les capitaux, les capitalistes, voilà, les grandes puissances, le multinational. Sinon, pour le petit Congolais, même quand il a créé une entreprise,
est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire par là que les investisseurs congolais ne sont pas favorisés? Ils sont défavorisés?
Non. D'abord, on ne peut pas favoriser les investisseurs congolais. Hein. On ne peut pas les favoriser. Si on favorisait les investisseurs congolais, les entreprises congolaises, la GECAMINE n'allait pas perdre tous ses avoirs. quand on libéralise, vous savez, c'est le sort de la Gécamines. La Gécamines a été saucissonnée justement à cause de cette libération, à cause de ce climat des affaires, où il faut donner la même possibilité à toutes les entreprises qui se présentent. Donc quand on est dans ce genre de climat des affaires, c'est, je vous l'ai dit, hein, c'est au détriment normalement de la petite et moyenne entreprise locale qui aura des problèmes pour pouvoir supporter la concurrence, la pression extérieure. Malheureusement, très souvent, nous ne faisons pas ces analyses. Hein, mais il y a des pays de l'Amérique latine, par exemple, des pays qui ne sont pas aussi forts, mais qui parfois disent non, et s'en foutent de ce genre de classement. Et quand ils savent qu'ils ont leur minerai, ils ont leur forêt, ils ont leur, ils ont de l'eau et d'autres ressources, ils savent que les investisseurs vont venir. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas résister parce que nous savons qu'il y a des gens qui vivent, qui tournent autour de ce genre de climat d'affaires, et nous savons que nous avons une économie qui ne représente rien aujourd'hui, et donc voilà, nous sommes soumis comme des petits-enfants.
Alors Victor Zouzi, vous êtes, je vais vous donner la parole, Monsieur Kiambou, vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Vous estimez que le climat des affaires ne s'est pas amélioré en RDC?
Je ne sais pas. Si ça s'améliore, ben écoute, que ça s'améliore, nous allons lire ça là, dans le budget de l'État, l'apport que toutes ces entreprises vont amener dans le budget de l'État, sinon non. Mais j'ai vu une entreprise qui devait naître à côté de Mbanzangungu où je suis, et c'est des investisseurs dans le secteur agricole, ils sont arrivés et tout ce qu'ils ont fait, ils ont labouré même le manioc des paysans. Ça se passe à quelques kilomètres de Mwalakinsende. Ils ont labouré et après ils n'ont même pas planté et cette année ils reviennent encore. C'est ça le climat des affaires. Et dans le minerai, quand il y a exploitation des minerais des entreprises qui s'installent au détriment, au défaveur de la population, c'est ce que vous appelez l'amélioration du climat des affaires pour les investisseurs. Mais et pour la population, c'est quoi? Qu'est-ce que ça devient?
Et vous, comment vous définissez, pour vous, c'est que ça devrait être comment?
Écoute, moi je pense que j'ai lu l'article de la Constitution. Le droit au développement, ce n'est pas se soumettre à toutes ces institutions. Et d'ailleurs, l'État congolais aujourd'hui, bien qu'il se plaint, mais il est content, parce qu'on a pu quand même les gratifier. Mais très souvent, l'État congolais dit toujours, ah oui, ces gens-là, c'est ce qu'ils font toujours, ils s'imposent sur nous. Aujourd'hui, on est un peu content, mais moi je pense que le droit au développement, c'est lorsqu'un peuple, lorsqu'un pays, une nation, un gouvernement se choisit une voie de développement et non pas se soumettre. Tout ça, c'est, vous avez cité la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, je vous dis que c'est une banque hein, et dont les fonds majoritaires sont détenus par les grandes puissances et ces grandes puissances-là, ils s'imposent partout. Donc ce n'est pas pour le petit Congolais, ce n'est pas pour le petit investisseur congolais. Ça, il faut le savoir. Et il faut pas aller chanter simplement victoire. Je pense qu'il y a un grand travail à faire pour que réellement on devienne autonome, indépendant dans notre économie. Et à ce moment-là, les gens vont nous respecter et ils ne nous imposeront plus comme on nous impose ici.
Merci.
Ça, on ne le ferait pas en Équateur, sinon en Colombie, hein, ce qu'on fait chez nous.
Merci Victor Zouzi, Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Vous êtes aussi analyste économique et politique. Quelle est votre lecture de ce rapport de Doing Business?
Ma lecture était un peu mitigée, elle est paradoxale parce qu'en même temps, nous voyons qu'on a fait un progrès parce que nous sommes classés parmi les pays les plus réformateurs du monde, mais d'autre part, nous sommes toujours en queue de peloton dans le classement de Doing Business. Mais il faut d'abord qu'on restitue justement l'importance justement de l'amélioration du climat des affaires, que je définis d'abord comme un ensemble de conditions juridique, économique, infrastructurel, qui permettent à ce qu'il y ait création de richesses, qui permettent à ce que qui favorise l'entrepreneuriat. Et donc, si vous avez un pays comme le nôtre, aussi pauvre, ça veut dire l'État n'est pas omnipotent, l'État ne peine à mobiliser à peine 4 milliards de dollars. C'est pas avec 4 milliards de dollars qu'on va développer un pays aussi immense avec une population de 70 millions d'habitants. Donc, la philosophie qui sous-tend justement l'amélioration du climat d'affaires, c'est pour favoriser l'initiative privée, locale ou étrangère. Mais pour que cette initiative privée, créatrice de richesses, créatrice d'entreprises, créatrice d'emplois, puisse s'épanouir, il faudrait justement qu'on crée les meilleures conditions de l'épanouissement de l'activité économique. Et ça passe justement par l'amélioration du climat d'affaires. Et le doing business est un indicateur, est un tableau qui vous permet justement de vous mesurer, de voir l'attractivité économique de votre pays. Elle recommande justement, notamment, que l'on puisse améliorer l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, les infrastructures. Vous notez par exemple qu'aujourd'hui, avec plus ou moins la modernisation du boulevard Lumumba depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville, c'est un facteur d'amélioration du climat d'affaires. Et la plus grande avancée de la RDC, c'est bien entendu le guichet unique. Le guichet unique, je me suis rendu il y a quelques mois de cela au guichet unique, je me suis rendu compte que les procédures sont claires, elles sont simples, le coût et de toutes ces procédures là-bas est plus ou moins acceptable. Donc ici en RDC, là, il est possible de créer une entreprise en 48 heures ou en 72 heures au maximum, mais c'est une excellente chose. Nous devons nous dire aussi que nous sommes en concurrence avec l'ensemble de pays du monde. Et donc, comme nous sommes en concurrence, nous devons faire en sorte que notre économie, que notre environnement d'affaires soit le plus attractif possible. Et ça passe par un certain nombre de réformes. Alors, mais la question que je me pose par rapport à notre état de pauvreté, par rapport à la non-activité globale de notre économie, est-ce que a-t-on fait suffisamment de réformes et suffisamment de réformes? Je dis non, parce que si je vois la feuille de route qui nous était proposée il y a quelques années, elle comprenait une cinquantaine de mesures dites urgentes. Sur la cinquantaine, je pense que celle qui a été appliquée avec intelligence, c'est la création d'entreprises. Il faut rappeler aussi que justement la création de l'entreprise est importante parce que l'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga de la prospérité. Parce que c'est en train d'entreprise qu'on va réduire le chômage, qu'on va permettre à l'État d'avoir plus de moyens pour son action sociale ou autre. Alors là-dessus, je dirais que en termes de réforme, le compte n'y est pas par rapport à notre retard avec les autres pays du monde. Donc nous devons encore faire plus de réformes, aller plus vite. Je pense notamment à une sorte d'une seule autorité fiscale ou de taxation qui regrouperait tous les services et qui serait la seule interface par rapport aux investisseurs, aux hommes d'affaires. Donc, quand moi je suis chez un ami, par exemple, dans un de ces magasins sur le boulevard du 30 juin ou sur Tombalbal, je vois une kyrielle de taxes, une kyrielle d'agents de plusieurs services qui passent avec sa pièce à taxe. Si on fait un effort à ce niveau-là, comme on l'a fait avec le guichet unique de création d'entreprise, comme on est en train de faire maintenant avec le guichet unique en matière pour les importations, les exportations de marchandises au poste frontalier. Donc, on a ce travail de simplification des procédures, de clarification, de célérité, et pour abaisser les coûts, nous ferions œuvre utile. Cela permettra de créer plus de richesses en raccourcissant les délais, en diminuant les coûts. Et donc, je m'en rebondis aussi sur une question importante qu'a soulevé l'expert du CPCAI, c'est la question de l'accès au crédit. Et ils doivent travailler en collaboration avec la Banque centrale et le ministère du Budget ainsi que le ministère des Finances sur la centrale de risque. Parce que une des raisons du coût élevé du crédit en RDC, c'est le fait que les banques nous disent que il n'y a pas moyen qu'ils puissent mesurer les risques encourus en donnant un prêt, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas une bonne fiche pour identifier les immeubles, il y a beaucoup de désordre là-dessus, même identifier les revenus des gens, mais il fallait maintenant qu'on fasse une centrale de risque.
Merci.
Oui, voilà. Alors, tout ça d'être mis en œuvre de manière rapide pour que nous puissions progresser et créer la richesse.
Merci Israël Moutala, Janvier Kiyambo. Vous avez subi les analyses des uns des autres, c'est-à-dire de Victor Nzouzi et de Israël Moutala, qui a une analyse un peu mitigée. Et Victor Nzouzi qui estime que ce climat des affaires, c'est plutôt l'initiative privée étrangère qui est favorisée au détriment de l'initiative privée congolaise.
Merci madame. D'abord un rectificatif. Merci aussi aux amis qui ont pour leur contribution. D'abord un rectificatif. La référence qui est prise par le service Doing Business, c'est une entreprise nationale de taille moyenne. Ça, c'est un. Il est aussi important de dire que les critères d'évaluation des services Doing Business sont les mêmes pour l'ensemble des pays, qu'ils soient développés ou sous-développés. Et donc, c'est important aussi de dire que lorsqu'on améliore le climat des affaires, lorsqu'on simplifie les procédures, parce que c'est ça le travail en fait qu'on fait, c'est la simplification des procédures, la réduction du nombre d'étapes, la réduction du délai, la réduction du coût, comme l'a reconnu, je pense, M. Israël, pour la création d'entreprises, c'est pour faciliter l'initiative privée, l'entrepreneuriat, y compris de la petite, de la maman qui se trouverait en Gilles ou à Machine. C'est pour encourager l'entrepreneuriat parce que on peut faire des initiatives privées avec très peu d'argent. Créer une entreprise, donc, peut être à la portée du Congolais parce que l'objectif, en définitive, poursuivi, c'est aussi de créer un entrepreneuriat congolais. Les grandes entreprises sont hors portée, hors de la portée de l'évaluation du doing business. Elles ne sont pas prises en compte. On prend en compte une entreprise congolaise, je l'ai dit, nationale, de taille moyenne. Alors, quel bénéfice la population peut en tirer? Mais quand on simplifie, il est certain, je crois qu'il pourrait être utile à ses amis qu'on les invite à des ateliers au cours desquels des mamans reconnaissent qu'il y a un progrès énorme qui a été fait, particulièrement... Les mamans maraîchères, même les mamans commerçantes, je me souviens dernièrement...
Est-ce qu'elles ont facilement un crédit, ces mamans-là?
On va en arriver là. Je vais y répondre, madame. C'est vrai, le crédit, c'est encore une contrainte, mais on est en train de travailler. On améliore la centrale de risque. L'AMI, ici, à partir de la centrale de risque, la centrale de risque permet aux banques de partager l'information, ce qui leur permet en fait aussi de mieux apprécier la demande de crédit parce qu'ils ont, les établissements de crédit ont l'information sur les demandeurs de crédit, sur leur solvabilité, sur leur crédibilité. Et il y a d'autres formes qui sont en cours, qui sont en vue sur le crédit pour faire la promotion du crédit. C'est notamment la création d'un registre de sûreté immobilière. La GTMOA aujourd'hui encore au niveau de la Banque centrale pour échanger avec les experts de la Banque centrale sur les possibilités d'améliorer, de renforcer la distribution du crédit. Et des mesures sont en train d'être prises au niveau de la Banque centrale. Donc, améliorer le climat des affaires, c'est bénéfique pour tout le pays dès lors qu'on peut favoriser l'entrepreneuriat. Alors, il y a un autre élément important qui a été avancé par l'AMI, c'est qu'on est en concurrence dans le monde. On a fait cette réforme, on a fait plus de réformes que celles qui ont été communiquées, on en a communiqué 7. Mais de 7, 5 ont été retenus. C'est quelque chose qu'il faut apprécier.
Mais pourquoi les autres n'ont pas été
pour l'un ou l'autre sous-critère qui n'a pas été réuni ou parce qu'il y a par exemple une contradiction entre l'information fournie par le service public et celle donnée par le secteur privé. Parce qu'en fait, les services du business, lorsqu'ils mènent leurs enquêtes, ils interrogent aussi le secteur privé sur l'impact de la réforme. Je disais donc que dans le monde entier, on est en quelque sorte en compétition. On est en compétition et pour nous, cette reconnaissance, la reconnaissance de ces 5 réformes, c'est un signe d'encouragement. On n'en est pas satisfait, on n'est pas non plus satisfait du classement, mais c'est un signe d'encouragement. Ça signifie qu'on doit continuer à aller de l'avant, on doit continuer à travailler dur.
Alors,
je suis d'avis avec Israël qui propose une seule autorité fiscale, c'est une bonne proposition qui a déjà été soumise aux autorités et qui est certainement en train d'être étudiée.
Alors, M. Javier, il y a cet auditeur de données PNL et qui nous écrit depuis Faradje, qui dit, vous avez parlé des 7000 entreprises créées, comment on peut expliquer l'augmentation du taux de chômage en RDC?
Oui, il faut d'abord dire que le guichet unique a été mis sur pied en 2013, au mois d'avril 2013. Et les réformes qui sont évaluées par les services Doing Business sont celles qui ont été menées en 2013 et 2014. L'autre précision que je peux donner, c'est que quand nous parlons d'entreprises créées, je veux dire des entreprises qui ont finaliser le processus de création juridique d'entreprise. Maintenant, il faut aller voir sur le terrain si ces entreprises ont réellement commencé les activités et s'ils ont engagé du personnel. Parce que le climat des affaires, comme on l'a dit, c'est un ensemble de facteurs qui, pour l'un ou l'autre facteur, quelqu'un peut retarder le début effectif
de cette
activité.
Merci, Jean-Louis Kiambou. Victor Zouzi, vous avez suivi Monsieur Kiambou, qui est expert en réforme au comité des pilotages pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, qui a donné une précision là, par rapport à ce rapport. Il s'agit des entreprises nationales de taille moyenne.
Oui, mais nous revenons ici, je pense qu'il y a, je ne sais pas combien de mois, quand le Premier ministre avait déclaré qu'il y avait autant d'entreprises créées, nous sommes passés sur vos antennes pour parler notamment, par exemple, de l'impact sur l'emploi. Et donc voilà, nous revenons encore aujourd'hui et lorsque l'expert nous dit que les entreprises ont finalisé, par exemple, les formalités, reste maintenant à savoir si ces entreprises ont commencé le travail réellement. Mais quel est le délai pour que ces entreprises travaillent? Ils finalisent leur formalité, mais après, c'est vrai qu'ils doivent chercher où le siège ou, je ne sais pas, des infrastructures, des bâtiments et tout cela. Et sinon s'installer, mais combien de temps ça va prendre? Donc, le grand travail que nous faisons ici, je crois que nous devons être clairs et expliquer à la population. Lorsque la petite maman est en train de vendre, elle vend je ne sais pas, des pantalons, des chemises, des blouses qu'elle venait de coudre et qu'on sort, et qu'après, c'est le Chinois qui vend les tissus et qui engage aussi une couturière qui commence à coudre et qui vend le même produit en détail, alors que la loi l'interdit. Voilà, quand je dis que ça profite à l'extérieur, aux étrangers, plus. Donc, ceux qui viennent avec leurs petits fonds, qui viennent de l'extérieur, ils s'installent, et même quand on leur dit, par exemple, par rapport au commerce, ne faites pas le petit commerce, ils le font. Et l'État n'arrive pas à protéger les nationaux. Alors, comment cela peut être favorable? Et même cela, dans l'agriculture, moi je suis dans une région de Mandangoum où l'on produit la tomate. Aujourd'hui, vous amenez la tomate sur le marché, il y en a, je ne sais pas, excusez-moi, des gens qui viennent de l'Asie, qui produisent la tomate quelque part, et qui déversent la tomate sur le marché, à point que ceux qui viennent d'une autre tomate locale, avec le petit paysan, d'ailleurs, ils ont surnommé ça Ebola, parce que ça ne se vend plus. Donc voilà, il y a un problème. Moi, je crois que nous devons être très, très sérieux quand nous en parlons, on crée des entreprises, mais sincèrement, je le répète, ce n'est pas en faveur des Congolais. Les crédits, même l'électricité là dont on parle, mais l'électricité, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arranger. Hein. Je ne sais pas, ça va s'arranger quand, ce problème d'électricité. Et donc, nous serons toujours au bas de l'échelle. Prenons des dispositions sérieuses pour que les choses réellement avancent, mais pas seulement avec le coup de fouet de la Banque mondiale ou bien d'autres structures qui nous font des leçons. Nous-mêmes, nous devons prendre conscience et nous devons créer ces entrepreneurs congolais. Il faut leur donner les crédits, il faut leur donner la possibilité de faire face à ceux-là qui viennent de l'extérieur. Et ça, le gouvernement congolais n'a presque pas un programme là-dessus, hein, sauf le discours, mais concrètement, je ne crois pas.
Mais on a suivi l'expert du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires qui nous a dit ici qu'aujourd'hui les mamans, les femmes et même les femmes maraîchères sont contentes de l'amélioration de ces climats des affaires. Elles peuvent ouvrir une activité facilement, sans difficulté. Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous, puisque vous intervenez depuis la province du Bas-Congo, est-ce que ce n'est pas le cas dans cette province-là?
Je vous dis que la tomate, nous, qu'on amène à Sombazikida et qu'on sort, la tomate, on a surnommé ça Ebola, pour dire que ça ne se vend pas. Parce qu'il y a d'autres entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui viennent et qui vendent aussi la tomate et qui produisent avec des moyens, des grands moyens, il faut le dire, hein, pas de nos petits moyens. Et donc, je crois que la maman, je ne sais pas de quelle maman elle a parlé, hein, ces mamans, nous voulons bien le connaître prochainement. Nous voulons bien connaître ces mamans. Nous voulons bien voir ces mamans qui ont accès au crédit. Les crédits, le microcrédit, c'est combien? 200, 300? Le microcrédit s'arrête à combien? Et ces mamans peuvent faire face à, je ne sais pas, un Libanais qui va produire la tomate ou... Non, 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 il ne faut pas rêver.
Merci Victor Zouzizraël Moutalaïa, Godefroy Wakiang qui nous écrit depuis Bukavu. Il dit ceci, je considère ce rapport de Doing Business de la Banque mondiale comme de la poudre aux yeux. Comment un pays qui occupe la 184e place sur 189 pays peut figurer parmi les 10 économies du monde qui ont amélioré leur environnement des affaires, alors que la RDC n'est même pas en mesure d'améliorer les conditions de vie sociale et sécuritaire de ces populations?
Oui, il a à la fois tort et raison. J'aimerais dire que nous venons de très loin. Ça veut dire que pour que nous soyons un pays véritablement attractif pour nous-mêmes d'abord, les Congolais, mais aussi pour les autres, parce que nous devons être, pour développer l'économie, il faut avoir des capitaux. Les capitaux, en tant que Congolais, nous n'en avons pas. Ça veut dire que dans le meilleur du monde, et notre État, et notre population, nous n'avons pas les capitaux, nous sommes très pauvres en tant que pays et en tant que peuple. C'est une réalité. Si on avait attendu les capitaux de l'État, par exemple, pour avoir des sociétés télécom, combien de temps est-ce qu'on allait mettre dans un an? Il a fallu qu'on libéralise pour que ceux qui ont les capitaux puissent investir pour que nous ayons une certaine communication. J'aurais préféré que ce soit des entreprises d'État, mais l'État est pauvre. L'État se renforce, mais l'État doit se renforcer par des réformes. Et j'aimerais aussi dire une chose. Quand on dit que nous sommes parmi les pays les plus réformateurs, on ne doit pas s'attendre à ce que les retombées de ces réformes soient immédiates. Il y a un temps, parce que une entreprise créée, on en a créé quelques milliers, 10 000 par peut-être, mais les 10 000, c'est une vie qui commence. Il y a d'autres qui mourront certainement en chemin, d'autres qui vont prospérer, mais c'est un début. Ça veut dire que la question du chômage, la question du chômage sur laquelle les gens reviennent tantôt, il faut d'abord dire qu'il y a d'abord un gap, il faut d'abord que l'économie soit suffisamment dynamique en termes de création de richesses pour absorber d'abord le gap qu'il y a, c'est-à-dire le trop-plein de sans-emploi. Et après, il y a chaque année des nouveaux candidats. Donc, il faut d'abord résorber le gap, et c'est en termes de millions et millions de jeunes. Et donc, nous sommes dans un processus. Il faut mettre fin à la guerre, notamment à l'Est. Il faut stabiliser, par exemple, le processus politique. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'hypothèque sur l'avenir politique. Il faut que les élections soient régulières, que les changements, que le pouvoir, que les transferts de pouvoir soient pacifiques. Il y a tout un certain nombre de critères que nous devons vraiment consolider pour que nous soyons hyper attractif pour nous-mêmes et pour l'humanité. C'est comme ça que nous allons attirer les capitaux et nous allons créer la richesse et nous allons entrer dans un cercle vertueux. Mais nous sommes encore loin du compte, mais nous commençons à prendre conscience justement de cela et nous faisons des réformes. Et le guichet unique est une excellente réforme qu'il faut encourager. Toutes les réformes qui sont en fait au niveau de la douane sont des réformes à encourager. Mais encore, il faudrait justement que le pouvoir public, avec le peu de moyens qu'il a, puisse jouer un grand rôle. Quand je dis l'État, il s'agit de tous les pouvoirs publics du niveau local jusqu'au niveau national. Ça veut dire que, pour, par exemple, pour la commune de Lemba, son budget doit être connu. il a compté comme budget 10 millions de dollars l'an. Voilà, il faudrait que la commune de Lemba puisse identifier les meilleurs Congolais au niveau local de la commune de Lemba en termes de bénistes, en termes de peintres, en termes d'électriciens, pour avoir des partenariats, injecter des capitaux dans ces entreprises et puis les encadrer avec les banques pour qu'ils prospèrent, qu'ils se professionnalisent et se mettent toute une philosophie. Mais au niveau justement de l'État, qui est un grand agent économique, il n'y a pas encore cette prise de conscience. Avec nos communes, avec nos villes, avec nos provinces et avec nos ministères. Donc il faut un grand travail justement de création de richesses et ça va prendre, c'est un prochain long processus.
Merci Israël Moutala, Monsieur Jean-Louis Kiambou. Il y a cet auditeur Jean de Bukavu qui nous écrit, il dit ceci, est-ce qu'on peut nous dire ces 7000 entreprises sont dans quelle catégorie et combien de personnes y travaillent, combien des paysans ont jusqu'à ce jour eu un crédit pour leurs activités.
Dans quel secteur d'activité, je ne peux pas vous le dire malheureusement. Il faut voir les éléments du guichet unique pour connaître dans quel secteur on a le plus créé des entreprises. Combien de paysans ont eu accès au crédit? Je disais que c'est difficile, mais la centrale des risques, je l'ai dit, a été tendue aux microfinances pour permettre aux mamans, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, de bénéficier des concours financiers et des efforts. Je vous l'ai dit aussi, sont en cours pour la promotion du crédit de manière à faciliter sa distribution en offrant des garanties fiables aux banques et rassurer les banques qui veulent faire du crédit. Mais je voudrais dire merci à tous les amis qui sont intervenus, mais je leur demande, comme l'a dit l'ami dernièrement, l'avant-dernier qui est intervenu, on ne doit pas verser dans le défaitisme. Dans le pessimisme. Il ne faut pas être défaitiste. Il faut être défaitiste. On peut aller de l'avant. Un pas a été fait. Il faut le saluer. Il faut voir où nous étions, c'est vrai.
Il reste
beaucoup à faire. Beaucoup à faire, c'est vrai. En matière de crédit, d'impôts, de régulation, de contrôle du commerce. On a parlé des difficultés que prouvent les mamans qui sont dans les détails parce qu'ils trouvent des étrangers qui ont plus de moyens. Mais un pas est fait.
Alors, donc, il faut déjà conclure parce qu'il nous reste moins de 4 minutes.
Oui. Il ne faut pas être défaitiste, comme je le disais. Il faut saluer les efforts qui sont faits. Et l'impact, le vrai impact, ne vient que dans la durée. C'est le processus des réformes, c'est un processus souvent long. Un expert de la Banque mondiale nous disait ce matin que c'est souvent au bout de 8 ans, 10 ans qu'il y a un résultat. Qu'on prenne patience et qu'on s'y mette tous. Parce qu'améliorer le climat des affaires n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est une affaire nationale.
Nous sommes à la 30e année déjà.
Le CPC a été créé en 2009. Disons que les réformes, on peut dire...
Ça fait 5 ans déjà.
5 ans. On avance.
Au bout de 5 ans, on peut sentir quand même quelque chose.
Petit à petit. Merci. On est classé parmi les 10 meilleurs. C'est déjà quelque chose.
Mais on reste au bas de l'échelle. Merci, M. Janvier Kiambou. Victor Zouzi, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Je crois qu'il y a des efforts à fournir. Il faut vraiment le faire. L'État ne manque pas de l'argent. L'État n'est pas pauvre. L'État congolais, c'est parce qu'on ne veut pas sanctionner ceux qui sont en train de piller le pays. Le rapport... c'est le coulage de recettes de la BND, donc il faudrait que la justice fonctionne pour que les gens ne viennent pas nous faire des leçons par rapport aux moyens qu'ils apportent avec leurs banques, parfois de l'argent qui vient de blanchiment. Et alors aussi, il faut dire que pour le microcrédit, nos mamans, qu'est-ce qu'ils vont hypothéquer? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme garantie? C'est clair. Et même s'ils donnaient des garanties, mais comment réellement ils peuvent travailler pendant que les enfants sont chassés de l'école, pendant que les enfants tombent malades et qu'ils doivent le faire soigner, ils n'ont pas de moyens. Donc je crois qu'il ne faut pas rêver.
Alors quels sont les préalables pour vous pour accélérer les réformes?
Non, mais pour accélérer les réformes, c'est des réformes qui doivent tenir compte de la situation du pays, réellement, du petit peuple, et arranger, même si on a les crédits, par exemple. Ici, nous, l'Onatra est en panne. On ne trouve pas de solution, il n'y a même pas de carburant. Et le paysan qui a ce produit, qui voulait bien le mettre dans le train marchandise, mais les carburants, l'Onatra n'a pas de carburant, il n'y a pas de route. Le route, on en parle, beaucoup de discours, mais ça pose toujours des problèmes. Et alors, le préalable, il faut être sérieux, très sérieux.
Merci Victor Zouzi Israël Moutala. Un mot pour conclure.
Bon, pour moi, c'est que il faut absolument faire de l'amélioration du climat des affaires une priorité de priorité, car l'État n'est pas omnipotent. L'État doit s'appuyer d'ailleurs sur le secteur privé pour créer de la richesse, pour réduire la pauvreté. C'est un schéma simple, mais qui doit vraiment être bien compris à tous les niveaux du pouvoir public. Le mythe de la richesse de l'État congolais, nous sommes un État pauvre. On prendrait toutes les recettes du coulage, on prendrait toutes les fortunes supposées pillées à gauche et à droite, on les mettrait dans la caisse nationale, nous resterons toujours pauvres. Parce que la richesse, elle se crée par l'investissement, elle se crée par le travail. Quels sont les investissements congolais et qui produisent combien? Il y en a très peu. Et donc, merci. Ici, c'est de nous mettre d'abord d'accord sur notre état de pauvreté, afin que nous ayons la force intellectuelle et morale pour accomplir les réformes.
Merci Israël Moutala, c'est la fin de cette émission. Merci Alain Irung, Berry Luchaka, sous la supervision de Julien Niamoni, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Mimi Kindou était à la mise en onde de micro Kelinkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.